cobas.com. Rencontre par Marc Sisman.
Jacques Schwarzbarth.
Bonjour, bonjour.
Alors, vous êtes venu nous voir pour nous parler de votre nouvel album qui s'appelle Rise Above,
et
mais que vous n'avez pas fait tout seul. Vous avez eu la bonne idée de faire ça avec votre femme. Faites ça en famille, comme on dit. Alors, un album où effectivement la voix est, on va dire, assez présente.
Tout à fait.
Mais en même temps, c'est un album, je crois, dont le projet, la genèse dont vous peut-être nous parlez, est assez ancienne.
Oui, en fait, l'idée date de exactement de l'an 2000, en fait, où j'ai commencé à tourner avec D'Angelo pour la tournée du Voodoo. Et donc, dès les premiers mois, le groove était si intense et c'était si nouveau, si vous voulez, dans mon expérience de musicien. J'avais essentiellement fait du jazz classique et aussi du latin jazz, mais tout ça, c'était très acoustique, si vous voulez. Et d'entrer dans cet univers sonore avec des grosses basses, des snares, des backbeats, tout ça, ça m'a vraiment inspiré. Et aussi la complexité du phrasé de D'Angelo par-dessus tout ça. Et comme aussi j'étais le soliste du groupe, donc j'ai pu développer une sorte de vocabulaire très tôt sur ces grooves-là, et j'ai voulu pousser un peu plus le côté instrumental, et j'ai commencé à travailler sur un projet de soul jazz avec Pino Palladino, d'ailleurs, à l'époque, et Questlove. Et petit à petit, donc j'ai élaboré ce répertoire qui était purement instrumental au départ. Mais il se trouve que au début de cette tournée, j'avais rencontré une dame du nom de Stéphanie Mackay. Mmh.
Et son nom, tout à l'heure.
Et lorsque nous avons commencé à nous voir plus souvent, J'ai été invité par elle à écrire, en fait, des paroles sur des chansons qu'elle était en train de préparer pour son album. Et il se trouve que je me suis dit, mais je devrais, en fait, essayer d'intégrer cet aspect chanté dans ce projet Soul Jazz, pour compléter, en fait, le spectre sonore et puis la palette d'expression.
Est-ce que ça veut dire que votre approche de l'instrument, de par justement l'intervention d'une voix, vous avez appréhendé votre instrument, vous l'avez ressenti, vu tant au niveau du jeu qu'au niveau de l'écriture différemment?
Oui, tout à fait. Et si vous voulez, j'ai aussi commencé à comprendre certaines choses qui m'avaient été enseignées par Bob Moses, le grand batteur qui a été mon mentor, en fait, lorsque j'ai fini l'école de Berklee à Boston. Et donc il me disait tout le temps, il faut penser à ton instrument comme une voix. J'essayais de le faire, mais je n'avais pas vraiment compris ce principe-là jusqu'à ce que je commence à écrire, en fait, des chansons pour une chanteuse. Et c'est pourquoi, en fait, sur cet album, beaucoup de gens qui connaissent mon jeu disent qu'il est peut-être plus subtil sur cet album, puisque pour moi, j'essaie d'avoir une voix qui se marie à une autre voix à travers mon saxophone.
Juste pour revenir justement à ce début, notamment avec D'Angelo, quand vous étiez en contact donc avec une scène qu'on a appelée New Soul, etc., la Soul, comment dans votre parcours, on en parlera sûrement après par rapport au jazz, au Goka, etc., la Soul traditionnelle américaine, que ce soit Motown, Stax, etc., est arrivée dans votre éducation musicale et comment vous l'avez digérée ou pas, je ne sais pas, enfin comment c'est intervenu tout ça ?
La soul, c'était toujours dans mon univers musical parce que lorsque j'ai grandi, il y avait quelques disques de musique noire américaine à la maison. Et donc, deux d'entre eux étaient des disques de jazz. Il y avait Charlie Mingus, il y avait Louis Armstrong et il y avait aussi Ray Charles et les Golden Gate Quartet. Un groupe de gospel. Mmh. Donc en fait, j'avais un spectre assez large de l'univers de la musique noire américaine et j'étais un fan absolu de Ray Charles qui est avant James Brown.
C'est un peu justement
le papa de la soul, quoi.
C'est un trait d'union.
Et c'est un trait d'union d'ailleurs entre toutes les grandes musiques américaines, le jazz, le gospel, le blues, la soul. Donc et même la country.
C'est ce que la country a fait d'ailleurs pas mal de
voilà.
Classiques country qu'il a revisité.
Donc de là donc je me suis aussi intéressé à l'histoire même du rock avec Chuck Berry et à toute l'histoire du blues, Big Bill Brownsy, Lightning Hopkins et je comme à l'époque je jouais de la guitare. C'était un petit peu l'instrument privilégié de toutes ces musiques noires américaines en dehors du jazz en fait, ces musiques populaires. Donc si vous voulez, ça m'a toujours intéressé. C'est vrai que le jazz était au centre quand même de mes recherches, mais ça faisait partie de ma culture. Mais lorsque j'ai commencé à jouer avec D'Angelo, j'ai pris la mesure de la grandeur musicale de ce style et de l'inspiration, la force spirituelle qu'elle véhiculait, quoi. En fait, j'ai compris l'importance du gospel dans toutes les musiques noires américaines. Parce que déjà, avant d'entrer sur scène avec D'Angelo, on chantait des hymnes de gospel a cappella pour se mettre dans l'esprit de la musique. Et pour moi, c'était en fait des séances de possession spirituelle, quoi. Je sentais qu'on en entrait tous en transe avant d'entrer sur scène en appelant les esprits avec cette musique.
Ça s'appelait pas Voodoo Tour pour rien.
Voilà, exactement. Et cet esprit-là, en fait, de la musique gospel et son empreinte sur toutes les musiques américaines et notamment sur le jazz, c'est quelque chose qui échappe peut-être en partie aux musiciens de jazz qui ne sont pas des États-Unis, comme c'était mon cas à l'époque. Et donc, j'ai senti vraiment que mon éducation s'est complétée à travers cette expérience et ça m'a changé à tout jamais, c'est sûr.
Alors, sur ce nouvel album, Rise Above, donc, dans le livret, pour chaque titre, vous citez un peu la source d'inspiration, etc. Donc, on voit que c'est aussi à 360 degrés. C'est aussi bien Tchekhov que le 11 septembre, la musique créole que Michel Ndegocello qui vous a transmis une composition, une base de composition. Vous parlez de vos expériences aussi sous-marines, etc. C'est une sorte de kaléidoscope assez incroyable. Comment on recolle les bouts au final? Et en plus, comme vous avez dit, la genèse de ce projet, ça date il y a 10 ans, quoi. Donc comment on arrive finalement à assembler tout ça pour faire une sorte d'unité et raconter une histoire qui se tienne?
L'inspiration dans l'art est toujours multiple. C'est la force de la conception de l'artiste qui doit faire sens de ces bouts de vie. Mais la vie, elle nous parvient de façon désordonnée et par petits bouts. Et il faut procéder à une sorte de filtrage pour reconstituer tout ça et en faire, comment dire, une fresque. De la même façon qu'on prendra des petits bouts de cailloux pour faire une mosaïque. Donc, et de la même façon d'ailleurs, si il n'y a qu'une couleur dans la mosaïque, on ne peut pas créer de forme, on ne peut pas créer de subtilité, d'ombre, de mouvement. Donc, il faut justement tous ces éléments que vous mentionniez pour créer une mosaïque.
Est-ce que ce n'est pas aussi, excusez-moi de vous interrompre, mais parce que vous-même, vous êtes fait de cailloux différents, j'allais dire, de par votre histoire personnelle. Vous êtes une sorte de symbole presque de deux mondes à première vue diamétralement opposés qui n'en font qu'un, c'est vous. Et de par vos parents, vos histoires, leurs histoires respectives, votre approche même de la musique, est-ce que...
Oui, en fait, je ne dirais pas que ce soit des mondes opposés, puisque...
À première vue, apparemment.
Oui, justement, ça fait partie des choses que je refuse. Pour moi, l'humanité toutes les formes de vie participent de la même dynamique. Et donc, je vois plus les choses qui rapprochent les gens, les animaux et les esprits en général que ce qui les divise. Mais effectivement, je suis un métis par excellence. Et en cela, j'entends non seulement sur le plan racial, sur le plan culturel, mais aujourd'hui, effectivement, puisque je vis en dehors de mes lieux d'origine et dans la capitale du métissage, New York. C'est vrai que j'essaie de vraiment comprendre les autres au-delà des différences de naissance.
Sur l'instrument que vous avez choisi, si vous avez parlé de guitare, etc. Le saxophone, vos parents étaient tous les deux écrivains. Est-ce que c'est votre stylo un peu à vous? Est-ce que c'était un moyen obligatoirement de trouver votre propre stylo? Est-ce que finalement on se construit aussi un peu en réaction et contre? Enfin, le mot contre est peut-être violent, mais est-ce qu'il y a quand même une sorte de manière de...
Écoutez, ce qui est certain... c'est que j'ai la musique m'a intéressé avant toute chose. Je chantais des morceaux entiers avant de pouvoir parler aucune expression artistique ne m'a fait éprouver ce que la musique représente pour moi. et a toujours représenté.
C'est quoi vos tout premiers, vos premiers justement, ces sensations incroyables? Est-ce que c'était un musicien, un disque, quelqu'un que vous avez vu, entendu?
Il y a deux références permanentes pour moi. C'est d'abord l'écoute des grands ténors du Groka, la musique guadeloupéenne, puisque ma mère m'amenait à des cérémonies de Les Roses où on avait la chance, en fait, à 10 minutes de chez nous, d'avoir des gens comme Guy Conquête, Carnot, Anzala, qui venaient chez la mère de Guy Conquête, qui s'appelait Mansoso. Enfin, elle est toujours vivante, d'ailleurs. C'était des souvenirs extraordinaires.
Vous avez quel âge à peu près?
Je devais avoir 2-3 ans. Quoi. Et je me rappelle aussi qu'on avait un disque de Prokofiev. C'était Pierre et le Loup. Et j'étais fasciné par ce disque-là. Et je me rappelle passer des après-midi entières à essayer de comprendre différents petits passages déjà tout petits.
Pour revenir sur le saxophone, pareil, est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où ça s'est imposé à vous, ce choix? Est-ce qu'il y a eu une période justement avant où vous avez un peu, pas tout testé, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où vous avez ressenti comme une évidence?
Alors, j'ai peut-être une histoire un petit peu peu commune dans mon rapport avec mon instrument, c'est que j'ai découvert le saxophone ténor à 24 ans. Et c'était une amie qui avait un saxophone chez elle, qui avait été laissé par un saxophoniste professionnel, et c'était un instrument donc d'étude. Et j'étais en vacances et je lui ai dit, mais moi, je suis un fan de tous les grands saxophonistes, est-ce que tu me laisses essayer de souffler 2-3 secondes? Et à ma grande surprise et à la surprise de tous ceux qui étaient présents, j'ai commencé à jouer du saxophone dès lors que je l'ai porté à ma bouche. Et la logique de l'instrument m'a semblé évidente, en fait. Donc il y avait quelque chose de naturel dans cette relation, et un coup de foudre, littéralement. Et là, je m'apprêtais à commencer ma carrière de haut fonctionnaire. Donc je n'ai pas pu, en fait, y dédier tout le temps que je souhaitais à l'époque, mais c'était en fait, c'est devenu rapidement mon obsession, tant et si bien que 3 ans plus tard, j'ai tout plaqué pour partir à l'école de Berkeley à l'âge de 27 ans. Donc en fait, pour répondre à votre question, ça s'est fait sur le tard, donc à 24 ans, et finalement, rapidement, ça a été une relation intense et pratiquement foudroyante et suffisamment intense pour justifier que finalement je bouleverse ma vie à la suite de cette rencontre.
Rétrospectivement, est-ce que finalement c'est bien ou c'est pas bien d'avoir appris cet instrument tard? Parce que souvent en général, quand on est musicien, on dit toujours l'histoire, il a commencé à 2 ans, il avait déjà un saxo dans la bouche. Là, 24 ans, finalement, est-ce que...
Moi, je sais que ça m'a pris longtemps pour que mon corps s'adapte à l'instrument. Parce que vous savez, ce n'est pas une position naturelle que de porter un morceau de métal pendant des heures autour du cou. Et même le fait que l'épaule gauche soit plus élevée que l'épaule droite. Enfin, tout ça sont des choses qui apprennent beaucoup mieux lorsqu'on est jeune. Et comme j'avais fait beaucoup de sport dans mon adolescence, j'avais donc un corps formé tout à fait différemment, et j'ai dû en fait cesser de faire du sport pendant des années pour laisser mon corps s'adapter à l'instrument. Donc je dirais que je regrette de ne pas avoir rencontré cet instrument plus tôt. Je pense que il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire plus naturellement. Mais en même temps, le fait d'aborder tout cela en tant qu'adulte, m'a donné un respect et par rapport à l'instrument et la musique en général. Un respect et finalement un sens peut-être de l'insignificance, l'absence
de
signification de l'ego et de l'individu en musique. La musique dépasse tous les musiciens. Et c'est quelque chose que peut-être effectivement beaucoup de jeunes musiciens qui ont peut-être connu un succès déjà à l'âge de 15 ans ne mesurent pas nécessairement en fait.
Dans cet apprentissage tardif de l'instrument, donc il y a les cours, les professeurs, les écoles, etc. Quel rôle ont joué les disques ? Est-ce que vous étiez une sorte de glouton où vous achetiez tout pour tout savoir, tout connaître, des grands disques de saxophone, ou est-ce qu'il y a eu des phases ? Comment ça a fonctionné ?
Les disques ont été mon professeur principal jusqu'à ce que je devienne, si vous voulez, un musicien professionnel. Et à ce moment-là, c'est des musiciens plus expérimentés qui m'ont servi de mentor et qui sont devenus mes professeurs. Mais même à l'école de Berkeley, à part peut-être deux professeurs, j'apprenais beaucoup plus en fait des disques que des cours que je prenais à Berkeley. En fait, le Berkeley, c'était pour moi surtout un lieu où pratiquer mon instrument.
Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez senti que vous arriviez à être vous-même musicalement, c'est-à-dire de pas, quand on se rapproche justement des disques, en général on prend souvent les maîtres, comme on dit, etc. Est-ce qu'il y a un moment où on arrive à, quand on se rend compte qu'on coupe le cordon, ou est-ce que ça se fait progressivement, est-ce qu'il y a des chocs?
Ça se fait progressivement. Ça se fait progressivement et on passe par toutes sortes de phases. Et je pense que c'est difficile de déterminer un moment précis où sa voix personnelle commence à prendre le dessus. Moi, j'ai peine à définir cela en moi. Pour moi, si vous voulez, je suis encore un adolescent musical puisque j'ai commencé très tard. Et je pense entrer dans mon âge adulte dans les quelques années à venir. Mais bon, j'ai l'énergie et le sens de la découverte qui me permettent d'aller plus loin, je pense que je pourrais entrer dans mon âge mature bientôt.
Je voulais poser cette question sur les disques parce que j'avais vu un propos intéressant de vous dans une interview pour l'album Abyss. Où vous aviez dit, pendant l'écriture de cet album, vous aviez emmené avec vous, vous aviez une vingtaine de disques que vous aviez sélectionnés, qui étaient pour vous des sortes de sommets du jeu et de l'écriture. C'est intéressant parce qu'il y a un peu deux types de musiciens souvent. Il y a ceux qui, au moment de préparer un album, ils veulent se couper de tout, ils n'écoutent plus rien, ils ne vont plus au concert, ils n'écoutent plus de disques, ils essaient. Et il y a ceux, au contraire, qui restent...
Je pense que les gens qui disent qu'ils cessent d'écouter de la musique ne sont pas... ne disent pas toute la vérité. Je suis convaincu qu'on ne peut pas faire de musique sans musique, on ne peut pas faire de littérature sans littérature. Je pense que cesser d'écouter de la musique, c'est se couper de ses sources d'inspiration. Et je pense que tout artiste maintient une sorte de panthéon de personnes, d'esprits qui représentent le canon de ce qu'ils essaient d'accomplir. Et il faut se mesurer à ce canon pour pouvoir s'autocritiquer et perfectionner ce qu'on fait. Did you cry when I said bye? Did you think that I wouldn't take it? Why did you laugh when
Quel rôle justement vous donnez aux albums, à l'enregistrement studio par rapport au concert ? Est-ce que c'est pour vous c'est un instantané, un polaroid ? Est-ce que c'est plus quelque chose qui a un concept qui se travaille ? Comment vous voyez le principe du disque ?
Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un instantané. C'est la récolte d'un travail sur des années. Bien entendu, un travail d'instrumentiste, mais dans mon cas et dans le cas de beaucoup de gens que j'admire, qui sont mes modèles, c'est un travail de composition. Et donc, il faut à un moment donné enregistrer et documenter ce travail de composition que l'on fait avant d'entamer un nouveau travail de composition. Sinon, si on attend trop longtemps avant d'enregistrer quelque chose, on est déjà dans une phase différente de sa création et on ne peut plus retrouver les mêmes sentiments qui vous permettraient de jouer et de présenter de façon vivante et organique la musique qu'on vient de composer. Donc il est important pour moi d'enregistrer périodiquement, que ce soit pour un label ou que ce soit pour mon compte à moi, afin de figer dans le temps le fruit de mon inspiration de compositeur sur des années. Et une fois qu'on l'a fait, même si c'est de façon imparfaite, par exemple, la musique de ce disque « Rise Above », Je l'ai enregistré, si vous voulez, de façon imparfaite, certes, mais je l'ai enregistré sur plusieurs années, au début des années 2000. Et maintenant, effectivement, je suis en position de la compléter, de la ressortir. Mais si vous voulez, j'ai des références de ce qui avait représenté tous les éléments essentiels de cette musique. Et donc, je peux m'y reporter aujourd'hui. Donc c'est très très important pour moi d'enregistrer. Bien sûr, comme je le disais, si j'étais pas compositeur, ce ne serait effectivement qu'un instantané de mon style instrumental.
Pour quelqu'un qui est très attaché au disque, comment vous vivez la période actuelle depuis de la dématérialisation de la musique ? Est-ce que vous voyez du bien, du mal ? Comment vous jugez, et en tant que mélomane et en tant que musicien ?
Écoutez, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que tout est accessible à tout le monde. D'une part, et d'autre part, que c'est très facile de faire un disque. Donc, même si on n'a pas de gros budget derrière soi, on peut effectivement avec un petit système d'enregistrement digital chez soi, même dans son salon, réunir des amis et faire un disque. Maintenant, le côté négatif de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup trop de disques qui ne sont pas pensés, qui ne sont pas élaborés, qui ne représentent pas finalement un besoin réel chez l'artiste. On produit un disque simplement parce qu'on peut. Mais il n'y a pas de justement ce dont je parlais, des années de préparation, ça ne représente pas, une conception personnelle et individuelle sur des années de travail, de composition. Et donc, il y a un foisonnement de disques qui ne représentent rien ni pour les auditeurs, ni pour les musiciens qui les font, en fait. Simplement des outils de promotion parce qu'ils veulent jouer dans des clubs ou booker quelques gigs ou même simplement des bar mitzvahs et des mariages, quoi. Donc ce côté-là est un petit peu absurde et noie par la quantité. La qualité est noyée. Et il y a un dernier aspect, effectivement, c'est que on est entré dans le domaine de la production de masse, que ce soit pour le fast-food, que ce soit pour la musique de grande écoute, où il y a une sorte de simplification de tout. Maintenant, ce qui marche à la radio, etc., en matière de musique, ce sont des morceaux où il y a deux, trois notes au maximum dans la mélodie et peut-être un, peut-être deux, au maximum trois accords, pas de modulation, des arrangements super simplistes et donc finalement un formatage qui aboutit à une lobotomisation littéralement de la musique de masse, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même dommage parce que il y a pas longtemps encore, la musique populaire, c'était Ella Fitzgerald, c'était Count Basie, c'était Duke Ellington. L'ère où des génies de la musique étaient écoutés dans tous les foyers est tellement dépassée. Maintenant, on a des nains musicaux qui sont représentés par des paires de fesses et de seins à peine recouverts et qui symbolisent en fait toute la musique qu'on écoute aujourd'hui de façon abondante, quoi. C'est assez ridicule.
Ce constat très négatif, si vous le projetez dans l'avenir, vous pensez que c'est une sorte de... C'est irréversible tout ça finalement ?
Non, rien n'est irréversible. Rien n'est irréversible. Et puis, c'est un constat, mais ça ne me déprime pas.
Ouais. Je vais te faire des disques. Ça vous nourrit peut-être justement même plus, ça vous
stimule ?
Non,
pas du tout. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je pense que on aura toujours besoin d'élever son âme. Donc, il y aura toujours un public pour la musique d'art, pour la peinture d'art, pour le film d'art. Donc, les artistes qui veulent aller jusqu'au bout d'une aspiration trouveront toujours du répondant quelque part. Je pense que le seul problème, c'est que c'est plus difficile. C'est plus difficile. Il y a plus d'appelés et moins d'élus, donc une abondance de musiciens qui, à travers les écoles de musique et les écoles de jazz maintenant, jouent très bien très tôt, et peu de débouchés pour tous ces talents qui arrivent. Donc c'est quand même souvent beaucoup de drames personnels dans la vie de jeunes musiciens, et ça c'est dommage, mais je pense que le live est ce qui va sauver, si vous voulez, la musique. Il y a une telle profusion d'enregistrement, justement, que ce qui va faire la différence à terme, ce sera les concerts, ce sera le live.
Est-ce que les bases, la souche, les racines africaines du jazz, mais même du guoka, vous donnent pas envie parfois de travailler plus avec des musiciens africains, par exemple ?
Mais je le fais.
J'ai l'air vraiment sur toute la palette de musiciens, vraiment sur le territoire, et même là-dessus, pour rebondir un peu sur ça, et sur ce que vous avez dit avant, le fait de vivre aux États-Unis, alors c'est vrai que New York, c'est pas les États-Unis, d'une certaine manière, c'est un peu une ville un peu à part, vous donne pas, même si vous voyagez, vous écoutez, vous êtes ouvert, vous lisez, vous rencontrez des gens en permanence, ne vous met pas dans une situation limitée, tout simplement, qu'on pourrait dire.
Non, au contraire, je pense que le fait d'être à New York, ça me donne la liberté de d'entamer toutes sortes d'aventures artistiques sans le jugement d'une communauté, d'une école. Donc c'est extraordinaire et j'ai par exemple un intérêt prononcé. Pour ne pas dire une passion pour la musique Gnawa. Et je travaille depuis des années sur un projet donc qui impliquera donc des musiciens Gnawi. Ouais. D'ailleurs je vais à Rabat en début juillet pour travailler en résidence avec des musiciens Gnawi déjà pour entamer ce projet-là. Donc, pour répondre en ce qui concerne les musiciens africains, oui, c'est déjà en route tout ça. Et c'est très important pour moi de faire ce travail-là, effectivement.
Que vous avez besoin effectivement par rapport à ce côté réfléchi de chaque projet, celui-ci Rise Above date d'il y a un certain temps, vous dites que le projet par rapport à la musique Gnawa c'est quelque chose qui date aussi, vous avez besoin de que ça mûrisse, est-ce que ça veut dire que vous avez eu des expériences finalement que vous avez fait rapidement et vous avez été déçu parce que vous n'avez pas laissé la chose mûrir, macérer, voir comment dans votre esprit ça évoluait. Parce que justement, c'est un peu, ce qui est bien, c'est que c'est un peu en contradiction avec la période actuelle où tout doit être rapide, tout doit être speed, on a une idée, un projet, là, qu'il faut le faire, et on passe au suivant, et c'est un peu à la chaîne, finalement.
Tous mes projets sont le résultat d'un long mûrissement. Je ne fais rien qui représente simplement de 2 mois de réflexion ou d'écriture. Si une idée, un concept et une émotion ne me portent pas sur des années, d'abord, j'ai l'impression de ne pas pouvoir en faire un concept. Et un concept, c'est quoi ? C'est établir des paramètres de composition et pouvoir décliner des œuvres à l'intérieur de ce paramètre, de ces paramètres. Créer un univers de composition qui correspondent tous à ces paramètres. Bien sûr, des paramètres qui doivent être à la fois précis, mais suffisamment larges pour pouvoir permettre une large panoplie, une riche panoplie et variée aussi, et contrastée, pour créer justement un univers où on peut respirer musicalement. Et donc, pour peaufiner tous ces éléments-là et faire en sorte qu'ils soient vraiment valides et qu'ils aient une force, qu'ils aient une intensité, il faut du temps. Il faut du temps, des expériences, des essais, des réussis ou moins réussis, et des bilans et des remises en question. Donc voilà, tout ce travail, si vous voulez, de création et de destruction, doit être fait sur des années pour en arriver à quelque chose qui tient vraiment la route. C'est pourquoi, par exemple, je ne suis pas jeté à corps perdu dans cette expérience Gnawi, parce que je veux attendre que tout ça mûrisse vraiment. Par exemple, j'aurai cette résidence. Je suis déjà allé 4 fois au Maroc. Au cours des 2 ans qui viennent, je vais continuer à travailler cela jusqu'à, j'espère, pouvoir sortir un projet qui soit inspiré de toutes ces expériences, mais qui reflète une vision personnelle de ces musiques.
C'est quoi les autres envies à part celle-ci, en projet aussi bien au disque que à la scène ?
Eh bien, écoutez, je voudrais rassembler des gens qui ont beaucoup compté pour moi, tels que Harry Honig ou Jean-Michel Pilk, dans un projet où on jouerait des compositions de mon répertoire de quartet de jazz. Et ça, c'est très important pour moi, parce que c'est avec ces musiciens-là, on est à la fois dans un univers d'adultes et un univers d'enfants qui s'amusent ensemble sans limite. Et c'est quelque chose, il y a quelque chose de ludique et d'un peu illimité dans la façon dont on joue ensemble, et que j'aimerais retrouver à travers un projet. Je voudrais aussi faire un tribut, un hommage à la tradition de la biguine, qui est une tradition donc antillaise. Et il y a des mélodies extraordinaires, des compositions vraiment hors du commun, de toute beauté, et que finalement, en dehors de notre communauté, je dis notre communauté, ça fait tellement de temps que je suis parti et que j'appartiens plus à l'univers qu'aux Antilles aujourd'hui, mais peut-être lorsqu'on est antillais, c'est pour la vie. Hein, donc, je pense qu'il y a vraiment un patrimoine à présenter au monde, quoi. De la même façon, bon, je ne veux pas le faire de façon littérale. Je ne veux pas simplement interpréter des biguines comme on les ferait dans un bal ou dans un hôtel où on présente une séquence de douist. Mais je voudrais en l'intégrer dans un langage qui est le mien aujourd'hui.
En disque, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ? C'est quoi les dernières choses que vous avez achetées qui vous ont plu ou déçu ou...
Je réécoute plus que je découvre ces jours derniers. J'écoute beaucoup Keith Jarrett, et
Une période en particulier
Deux périodes. La période Impulse, avec Dewey Redman, et donc Charlie Hayden. C'est une période qui est révolutionnaire pour moi. Il a réussi à justement définir un style de composition qui n'existait pas avant. Et il a des façons de faire respirer les phrases et de passer du tempo rubato qui sont absolument uniques. Et je regrette en fait fortement qu'il ne joue que des standards aujourd'hui. Parce que pour moi, en tant que compositeur, il a quelque chose d'unique à dire et ça me touche énormément. Cette première période avait des compositions singulières hors du commun et se combinaient à un style d'improvisation qui relevait un peu de Ornette Coleman. Mais plus tard, lorsqu'il s'est mis en collaboration avec Jan Garbarek, il est entré dans un univers de composition tout aussi particulier et unique, mais un style d'expression plus mélodique. J'oscille entre les deux. Souvent, je compare la façon dont il faisait les choses d'une période à l'autre. Je pense que ça va être, une écoute porteuse pour moi. Parce que pour comprendre ce qu'il y a d'unique dans son âme à soi, il faut mesurer ce qu'il y a d'unique dans l'âme des maîtres. Et pour moi, en tant que compositeur, c'est lui depuis Wayne Shorter, si vous voulez, qui a fait les contributions les plus importantes.
Pour ceux qui veulent mieux comprendre votre âme à vous, donc on rappelle que le titre de votre nouvel album, c'est Rise Above. Merci Jacques Schwarzwart.
Merci beaucoup. Life is ever so fragile, barely hanging on to the wings of time, by a thread long and yet invisible. Sometimes we forget and then we regret. Love is even more fragile, the minute we take it for granted vanishes and tarnishes. That's why I don't want to miss anything about you. Sometimes we forget and then we regret. Your sugar, your fear, your touch, your hair, your voice, whisper, moan, your prayer, your hands, your step, your spin, your care, your shadow, your heat, your light, your stare. I don't want to be free if it means that I'll be without you, babe. Without you, babe.
cobas.com. Rencontre par Marc Zisman.